Le journal, Sébastien Berriot.
Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les hommages qui se multiplient après le décès aux États-Unis de Toni Morrison, première romancière afro-américaine à avoir décroché le prix Nobel de littérature en 1993. Son œuvre qui raconte le racisme et les traumatismes de la communauté afro-américaine est aujourd'hui enseignée aux États-Unis. Réaction dans ce journal de l'universitaire Maboula Soumaoro. L'Inde montrée du doigt par le Pakistan et les populations du Cachemire au lendemain de la décision de New Delhi de révoquer l'autonomie de la région. Le gouvernement pakistanais prépare un plan de représailles et en appelle à l'ONU. On sera sur place dans la région avec Sonia Ghezali. C'est l'une des figures depuis 30 ans du régime et du pouvoir algérien, le général à la retraite Khaled Nezar, l'ancien ministre de la Défense et l'un des rares à avoir réussi à fuir à l'étranger depuis le début du mouvement de contestation. L'Algérie a lancé aujourd'hui un mandat d'arrêt international contre lui. Explication à suivre de Leïla Berato à Alger. Et puis le motif économique qui a été avancé par Ford pour fermer l'usine de Blanquefort en Gironde est-il justifié? L'affaire a été examinée aujourd'hui par la Cour d'appel de Bordeaux. La décision sera rendue au mois de septembre. Barack Obama, l'ancien président américain, rend hommage ce soir à Toni Morrison en évoquant un trésor national. La romancière afro-américaine s'est éteinte hier soir à New York à l'âge de 88 ans. Barack Obama lui avait décerné la prestigieuse médaille de la liberté en 2012. Mais surtout, Toni Morrison restera comme la première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993. Descendante d'une famille d'esclaves, son œuvre a contribué à donner une visibilité littéraire aux populations noires américaines. C'est une grande perte pour l'universitaire franco-ivoirienne Maboula Soumaoro, maître de conférences à l'université de Tours et spécialiste de la civilisation américaine.
C'est une catastrophe, même si elle avait 88 ans. On a l'impression que ces dames-là sont éternelles, tellement elles sont puissantes. C'est son art avant tout, c'est des romans plus incroyables les uns que les autres. Elle s'intéressait à la vie des Afro-Américains et aussi l'expérience traumatique. Je sais pas moi, la violence de l'esclavage, qu'est-ce que c'est que la mémoire de l'esclavage, qu'est-ce que c'est que la violence du racisme, mais comment tout ça, ça se déploie au niveau intime. Quand elle publie L'œil le plus bleu, son premier roman en 1970, elle parle de racisme. Évidemment, cette petite fille, Pecola, qui rêve d'avoir les yeux bleus à la Shirley Temple ou des stars qui la font rêver. Évidemment, Beloved, c'est un cas connu dans l'histoire de l'esclavage d'une femme qui a tué son enfant plutôt que de le rendre à son maître et donc de faire de cet enfant une esclave. Toni Morrison fait partie des canons, elle fait partie des classiques de la littérature afro-américaine. Elle est enseignée très largement, elle est disséquée dans les universités, mais elle est enseignée même au lycée. C'est quand même un auteur afro-américain qui a reçu le prix Nobel en 1993. Donc elle n'appartient pas uniquement à la communauté afro-américaine, même si elle est restée ancrée dans cette communauté et qu'elle a décidé de porter la voix de cette communauté. C'est une trajectoire, c'est un parcours de vie long de 88 années qui ne peut qu'impressionner.
Et sa maison d'édition en France, les éditions Christian Bourgois, salue ce soir une écrivaine au style tellurique et sensible qui a profondément bouleversé le roman américain. Des manifestations cet après-midi au Cachemire et dans plusieurs villes du Pakistan. La colère a éclaté dans la rue pour dénoncer la décision du gouvernement indien qui a décidé subitement de révoquer l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. Ça signifie que la partie indienne du Cachemire sera désormais entièrement administrée par New Delhi. Le Pakistan voisin qui revendique ce territoire dénonce un acte illégal et prépare une réponse au gouvernement indien. Le Parlement pakistanais était réuni aujourd'hui en session extraordinaire. Correspondance dans la région de Sonia Ghezali.
La possibilité d'un génocide au Cachemire est bien réelle, s'est publiquement inquiété le représentant de l'opposition à l'Assemblée nationale pakistanaise. Que prévoyons-nous de faire, a-t-il demandé lors de la session parlementaire conjointe qui s'est tenue aujourd'hui, session à laquelle a assisté Imran Khan, le Premier ministre. Face aux sénateurs et aux membres du Parlement, il s'est montré plus virulent et plus agressif qu'à l'habitude à l'encontre de l'Inde. « J'ai peur qu'il y ait un nettoyage ethnique au Cachemire pour anéantir la population locale », a-t-il dit. Les membres de l'opposition critiquent le Premier ministre et son parti le pitiaillent, les accusant de ne pas avoir de mots assez forts contre l'Inde. Imran Khan, qui prônait le dialogue à tout prix avec New Delhi, opte pour un ton plus agressif au cœur de l'hémicycle. Il accuse le BJP, le parti de Narendra Modi, son homologue indien, d'avoir une idéologie fanatique et raciste. Ils agissent contre leur constitution, contre la Cour suprême et les résolutions des Nations Unies, a poursuivi le Premier ministre. Deux puissances nucléaires voisines ne peuvent prendre de tels risques. Nous devons résoudre nos problèmes par le dialogue, a-t-il cependant insisté. Car s'il y a une guerre, a-t-il ajouté, personne ne sera gagnant et les conséquences seront internationales. La classe politique est unanime au Pakistan quant à la condamnation de l'Inde. Elle appelle à ce que l'ONU s'implique dans ce contentieux ainsi que la communauté internationale, attendant notamment que les États-Unis jouent le rôle de médiateur.
Plusieurs figures du régime algérien sont aujourd'hui derrière les barreaux. Depuis le début du mouvement de contestation, les poursuites judiciaires se sont multipliées contre des hauts responsables de l'armée et des membres du clan Bouteflika. Rares sont ceux qui ont réussi à fuir à l'étranger. C'est le cas du général Nezar, l'une des figures emblématiques du pouvoir algérien depuis 30 ans. Ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major des armées, c'est lui qui avait supervisé l'interruption du processus électoral en 1992. Le général Nezar, aujourd'hui à la retraite, a fui en Espagne avec son fils. L'Algérie souhaite le rattraper et a lancé aujourd'hui un mandat d'arrêt international. À Alger, précision de Laïla Berato.
Il est poursuivi pour complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandement d'une formation militaire, mais aussi atteinte à l'autorité de l'État. Khaled Nezar, ainsi que son fils Lotfi Nezar et le dirigeant d'une société pharmaceutique, risquent tous les trois la réclusion à perpétuité. Khaled Nezar et son fils sont en Espagne. Le tribunal militaire de Blida a donc émis un mandat d'arrêt international. Ce sont les mêmes chefs d'inculpation qui avaient poussé au mois d'avril le tribunal militaire à placer en détention provisoire Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président, Mohamed Medien et Atman Tartag, deux anciens responsables des services de renseignement. Khaled Nezar est lui aussi une figure sécuritaire du pays. Chef d'état-major puis ministre de la Défense, il était l'un des hommes forts de l'armée de la fin des années 80 au début des années 90. Il est poursuivi par la justice suisse pour crimes de guerre, accusé d'avoir pratiqué la torture à grande échelle. Mais depuis quelques jours, Khaled Nezar avait émis des critiques récurrentes contre Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major actuel et homme fort du pays depuis la démission du président Bouteflika. Ce sont ses critiques, mais aussi ses relations avec la famille Bouteflika ainsi que ses rencontres avec Saïd Bouteflika alors que les manifestations venaient de débuter qu'il semble payer désormais.
L'avertissement très ferme de la Chine aux manifestants pro-démocratie qui défilent depuis deux mois dans les rues de Hong Kong avec une petite phrase qui fait froid dans le dos. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu, dit Pékin. La Chine demande aux manifestants de ne pas sous-estimer, je cite, la ferme détermination et la puissance immense du gouvernement central. La fermeture de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde continue de tourner au débat judiciaire, débat très technique. Les salariés et leurs syndicats dénoncent le motif économique qui a été avancé par Ford pour fermer le site. L'affaire était examinée tout à l'heure par la cour d'appel de Bordeaux alors que le tribunal de grande instance, lui, s'était déclaré incompétent. La décision sera rendue au mois de septembre avec un enjeu pour les syndicats, faire annuler le plan de sauvegarde de l'emploi qui va toucher 872 ouvriers. Écoutez le délégué CGT de Blanquefort, Philippe Poutou, au micro de Marie Roarch.
C'est pas un barreau d'honneur. On a un espoir de gagner parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui Ford n'a aucune raison économique pour fermer cette usine-là. S'il n'y a pas de raison économique, il ne peut pas y avoir de licenciement économique. Donc le licenciement, il est illégal. Et nous, on essaie de faire marquer ça, de faire prendre position de la justice de ce côté-là pour empêcher la fermeture et montrer qu'il est possible aujourd'hui de s'opposer à des fermetures et à des licenciements. Alors on y croit, peut-être qu'on a tort d'y croire, on verra bien. Et après, il y a toujours la cassation, mais c'est toujours plus compliqué. Voilà, nous, tout simplement, il faut obtenir un jugement favorable de la cour d'appel. Il faut absolument que ce soit décidé avant le 1er octobre, puisque c'est le jour où on reçoit nos lettres de licenciement. Donc il faut que ce soit décidé avant, de manière à empêcher les licenciements. Il faut les déclarer illégaux avant qu'ils n'aient lieu, puisqu'après, finalement, ça ne sera qu'une histoire d'argent. Et nous, on veut surtout sauver les emplois, sauver une usine.
Les prévisions de Météo France pour la journée de demain, temps orageux sur une large partie du pays, avec encore la vigilance orange sur une vingtaine de départements, donc pour le risque orage. Du Jura jusqu'aux Alpes, les températures l'après-midi, 21 degrés à Strasbourg et 29 degrés à Perpignan.